Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Alors Mathieu, je suis extrêmement choqué par la une de Paris Match. On sait que Éric Zemmour, qui est un homme controversé, va probablement se lancer là, se présenter comme au présidentiel. Ses adversaires veulent sa peau à tout prix. Et là, Paris Match l'a mis en première page, une photo de lui dans la mer avec sa maîtresse dans ses bras. On sait qu'il est marié, mais là, il a une relation avec une de ses principales conseillères. Et on met ça en première page. Tu dis, attends une minute, là, on est rendu là. Dans la presse française?
Alors, toute l'ambiguïté, c'est Paris Match. Hein. C'est-à-dire, Paris Match est un titre qui appartenait quand même à la presse mainstream. C'était la version people, l'aile people de la presse mainstream, disons ça avec des bons mots français. Or, et il y avait aussi, il y a la presse qui raconte vraiment, il y a la presse people, il y a la presse de paparazzi, mais c'est pas Match, normalement. Et là, quel signal envoie Paris Match ici? C'est qu'il est normal, désormais, de violer la vie privée, de violer l'intimité, de s'emparer de l'intimité d'un homme, de sa vie privée, de ce qu'il n'offre pas au public, pour faire son procès au nom d'une conception fanatique de la transparence, au nom d'une conception complètement, je dirais, nord-américaine du fait qu'on doit tout savoir de la vie privée d'un homme si on veut voter pour lui un jour. En plus, c'est un article d'une grande hypocrisie, parce que, bon, on voit les photos qu'on voit, mais au même moment, le texte lui-même ne dit rien. Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout cela, mais ça nous en dit beaucoup, je trouve, sur ce culte de la transparence qui, aujourd'hui, prend une place immense dans les médias et qui, soit dit en passant, avouons-le, est encouragé par chacun de nous dans la société de la surveillance généralisée rendue possible par les téléphones intelligents partout, par les réseaux sociaux. Mais le fait est qu'on espérait que les médias résistent à cette tentation de la transparence absolue. Sur ce coup-là, manifestement, ils ont décidé de participer à une campagne pour jeter à
oui, terre la réputation d'un homme. On l'attaque pas sur ses idées. Là. On dit qu'il a une maîtresse. Écoute, comme s'il y avait aucun politicien avant dans l'histoire de la France qui a eu une maîtresse, vraiment. Puis c'est une photo prise au téléobjectif. C'est vraiment dégueulasse. On parle absolument pas de ses idées. Tout ça. Écoute, Mitterrand, à l'époque, avait non seulement une maîtresse, mais il y avait une fille illégitime qu'il avait eue avec une autre femme. Tous les journalistes connaissaient l'existence de cette fille-là. Personne n'en parlait.
Oui, absolument. Puis apparemment, Mitterrand, ce qu'il faisait, c'est que quand c'était inévitable que ça allait filtrer, il laissait passer ça dans la pire de la presse d'extrême droite, comme on dit, pour qu'on dise, vous voyez d'où ça sort, tout ça relève d'une espèce de fantasme et d'un complot. Mais le commun des journalistes refusait de parler de ça, et je pense que ça nous en dit beaucoup sur l'américanisation de la mentalité en France, l'américanisation des mœurs, le culte de la transparence globale. C'est-à-dire, on n'accepte plus cette idée, justement, l'intégralité de la vie d'un homme n'est pas faite pour le public. Deux, qu'on peut être un bon dirigeant tout en ayant une vie privée plus complexe que conventionnelle, disons ça comme ça. Et je trouve qu'à travers tout ça, c'est une espèce de sans-gêne absolu. On décide de s'emparer de ce qui relève de l'intime en oubliant que ce droit à la transparence n'est rien d'autre qu'une méthode qui relève du totalitarisme. Mais c'est un totalitarisme dans les circonstances, c'est-à-dire tous les domaines de la vie nous appartiennent, on peut s'emparer de tout et on ne se reconnaît aucune limite d'une manière ou de l'autre. Non, c'est très grave ce qui s'est passé sur ce coup-là. Et pour l'instant, la classe politique française est gênée, la classe médiatique, une partie l'est aussi, mais le mauvais coup a été fait finalement.
Mais est-ce que ça va aider Éric Zemmour? Je voyais Éric Nolot là, en France, ceux qui connaissent les médias français, vous le connaissez. C'est pas quelqu'un qui est près d'Éric Zemmour puis qui est dans la même mouvance, absolument pas. Et lui se dit extrêmement choqué. Il a pris la défense de Zemmour, donc ça pourrait à la limite aider Éric Zemmour.
En fait, c'est que c'est un joyeux duo, ces deux-là. C'est-à-dire les deux Éric, comme on les appelait autant, on n'est pas couché. Ils animent une émission ensemble, Zemmour et Nolo, mais ils sont vraiment pas sur la même ligne idéologiquement. Non. Et ils sont un peu l'incarnation de la possibilité d'une amitié qui soit pas simplement sous le signe de l'homogénéité idéologique. C'est-à-dire ils sont pas d'accord sur tout. Et pourtant, ils sont amis et ils le sont vraiment. C'est quelque chose de bien. Et moi, là-dessus, moi, j'ai un culte de la loyauté en ces matières. On défend ses amis quand ils sont attaqués. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, à moitié d'accord, on s'en fiche. Sur le fond des choses, quand ses amis sont attaqués, on les défend. Et c'est ce qu'a fait Nolo dans les circonstances. Et il a bien fait. Ensuite, comme je dis, qu'on pense ce qu'on veut des idées de Zemmour. Que comme certains zozos le font, qu'on le réduise à certaines petites phrases ou qu'on ait pris la peine de lire ses livres ou qu'on ait une réflexion d'ensemble sur ce qu'il fait, parfait. Mais décider d'exposer la vie privée d'un homme, je trouve que ça relève de méthodes qui sont celles de voyous.
Écoute, j'espère qu'il y a eu une longue discussion dans les officines de Paris Match, là, qu'il y a eu des gens qui étaient contre, tu sais, qu'il y a eu une discussion avant de faire ça, parce que tu regardes la une, tu dis, mais comment ils se sont rendus jusque-là? Vraiment, on s'en foutu qu'il y a une maîtresse ou pas, là. Comme si, et puis si c'était, mettons, quelqu'un qui était plus à gauche, qui avait une maîtresse, on l'aurait protégé. Je suis convaincu. C'est encore deux poids, deux mesures.
Mais bien sûr, c'est que c'est un, là, on est sur le mode, contre lui, tout est permis. Contre lui, tout est permis. C'est pas très surprenant. Mais, je trouve que c'est, tout ça s'alimente d'une même logique. C'est-à-dire, les médias sociaux, j'y reviens, bah, c'est important pour moi. Chacun avec son téléphone, on crée les conditions d'un espionnage universel et horizontal. Nous sommes tous des agents aujourd'hui des GAFAM. Nous espionnons tous d'une manière ou de l'autre. Et moi, je vois ça, c'est assez fascinant. Je me rappelle une fois une conversation avec un ami dans un restaurant. Je la retrouve en plus mal retranscrite sur une page Facebook quelques heures plus tard. Quelqu'un avait vaguement écouté et s'était dit que, ben, puis que j'étais un peu connu, on avait le droit de rapporter ma conversation. Alors ça, aujourd'hui, ça peut aller très loin, cette affaire-là. Et le fait est que nous ne savons plus ce qu'est l'intime, le privé. Nous croyons, et le mot transparence, qui passe pour un beau mot dans la langue française, est un mot assez inquiétant, moi, je trouve. Parce qu'il exige des êtres humains, justement, qu'il n'ait plus de place pour leurs contradictions, leurs secrets, leur vie intime, ce qui se dérobe à l'image publique qu'ils offrent d'eux-mêmes. C'est compliqué, une âme humaine. C'est compliqué, une vie humaine. C'est pas toujours simple, une vie humaine. Et le propre du privé, c'est un lieu de gestion de ces contradictions sans être exposé au domaine public. Qu'est-ce qu'on a vu? On voit la presse qui décide, en fait, de s'emparer de la vie d'un homme, parce qu'effectivement, c'est probablement, il n'est pas dans le bon camp.
Il y a des gens qui vont dire, oui, mais on a fait subir la même chose à François Hollande. Bon, rappelez-vous, François Hollande était amoureux de Julie Gayet, cette comédienne, et il avait, à un moment donné, décidé de traverser Paris sur un petit scooter pour aller retrouver son amoureuse. Il avait l'air d'un petit gars de 16 ans qui était tout content de voir sa première blonde. Et les photos avaient circulé. Moi, je dis, écoutez, c'est pas la même chose. Premièrement, on parle ici d'un président. Il était président de la République, ce que Zemmour n'est pas. Et deuxièmement, le gars avait mis son service secret dans l'embarras. Il avait vraiment, écoute, il était parti sans garde du corps. Il aurait pu mettre la République dans l'embarras si jamais il est arrivé quelque chose. C'est pas la même chose.
Mais, je m'en souviens très bien. Et moi, j'avais écrit une chronique dans le journal à ce moment-là. En disant qu'en dernière instance, ça nous concerne pas avec qui il couche. Je veux dire, à la rigueur, que ces services secrets, qu'il y ait cette discussion avec ces services secrets, mais moi là-dessus, je vais très loin sur ça. Je pense que, fondamentalement, les hommes, les femmes, n'ont pas à s'offrir au public. Et accepter de gouverner, ça ne veut pas dire accepter de s'offrir à la manière d'un corps offert à tous pour que chacun puisse directement cracher sur lui, tout savoir et ainsi de suite. Donc même sur le coup de Hollande, moi j'avais dit, mais ça ne nous concerne pas, ça ne devrait pas être d'intérêt public. Bon, là, je comprends tes arguments qui me semblent défendables sur ce coup-là, vraiment, mais en dernière instance, pour moi, c'est une tendance qui m'a un peu... C'est quand même la même tendance, c'est-à-dire ce droit d'espionner, ce droit de s'emparer de la vie d'autrui. Donc devant tout cela, mes réserves sont plus fortes.
Tu sais, Mathieu, t'étais une personnalité publique au Québec, t'étais connu, mais le Québec est un village, puis tout ça. Là, t'es en France, ton émission va très bien, ça va faire kaboum, tu vas devenir une grosse vedette, et tu vas avoir des adversaires extrêmement coriaces, des gens qui détestent ces news, qui te détestent là-bas, et tu vas voir que les adversaires là-bas sont pas mal plus méchants qu'ici. Et ça va être autre chose.
Je sais déjà. Ah, mais je sais déjà tout ça. Non, non, je vois ce qui s'en vient. Je vois très bien ce qui s'en vient. Je vois des gens qui veulent nous dégommer d'une manière ou de l'autre. Je vois tout ça. Ça fait partie. Cela dit, c'est assez particulier. C'est-à-dire, ça prend pas longtemps pour, dans le petit milieu parisien, on s'entend, pour que, manifestement, le travail trouve son écho. Donc, les gens sont très gentils, très aimables en disant continuez, lâchez pas. Mais évidemment que viendront tôt ou tard les portraits assassins, viendront tôt ou tard les reportages fielleux, viendront tôt ou tard les chroniques assassines. Bon. Et puis, il y en a qui chez nous qui vont dire ah, 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 formidable. Mais ça fait partie de la vie. Je ne m'en fais pas exagérément. Ça fait partie de la vie. La vie publique aujourd'hui vit avec une part de polémique plus grande qu'hier. Et les plus grands prêcheurs de tolérance sont normalement ceux qui voudraient ensuite condamner à la peine de mort sociale, ceux avec qui ils sont en désaccord. Nous savons tout cela.
Écoute, en terminant, je te remercie parce que tu me fais un sacré beau cadeau ce week-end. Tu vas recevoir ton émission à CNews, Alain Finkielkraut, et je vais regarder ça avec les orteils en éventail. Vraiment,
ah, mais ouais, là. Je suis heureux. Je reçois Alain Finkielkraut, qui est un philosophe admirable, et pour son dernier livre, L'après-littérature. Je suis très heureux de le recevoir. C'est demain, 20h heure de Paris, deuxième partie d'émission, et donc 6h de moins... c'est 14h à Montréal. Donc, au grand plaisir. Pour vrai, ça va être un bonheur de faire cet entretien.
Mais en Buck et Fink, on s'en reparle lundi. Bon week-end, bonne émission demain. Bye bye. Salut, bye.